France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Inquiet, déséquilibré et fortement malheureux. Ainsi se qualifiait lui-même Jacques Fesch dans une lettre écrite en prison. Jacques Fesch n'était pas un professionnel de la truanderie, de la mitraillette, du couteau, dit de lui l'un des intervenants de l'émission qui vient. Il y a la révélation en prison après le meurtre d'un policier. Une sorte de journal d'un condamné, telle est l'affaire Jacques Fesch, une émission de Michel Bichebois, diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 février 1973. Michel Bichebois, qui vient de publier un livre très réjouissant, Auto Radio, 40 ans de radio et plus avec affinité. Édition Faustier, un livre consacré, on s'en doute, à son amour pour la radio, une livraison de souvenirs en zigzag, selon ses dires.
25 février 1954.
Voici le journal parlé, dernière édition de la journée, au micro Jacques Lerat. Garde Indochine. Au début de la discussion du 12e provisoire militaire voté jeudi à l'Assemblée, les socialistes ont déclaré ne pas vouloir accepter les crédits destinés à la guerre d'Indochine alors qu'elle est entrée dans sa phase de liquidation. À Paris, à 18h, un jeune dévoyé, Jacques Fesch, a tué un agent de police et blessé deux personnes, dont un agent de change qu'il voulait dévaliser. Ce soir, sorti du dernier film d'André Cayatte, Avant le déluge. Le réalisateur s'explique à notre micro sur son film.
Nous avons montré quatre garçons et une fille que leurs aventures conduisent sur les bancs de la cour d'assises. Or, il est évident que tous les enfants de France, heureusement, ne passent pas leur temps sur les bancs de la cour d'assises, et ceux qui y passent sont des enfants exceptionnels pris dans une aventure exceptionnelle, et si leurs parents ont une grande part de responsabilité, c'est dans la mesure où eux aussi sont exceptionnels. Exceptionnels, mais caractéristiques d'un certain milieu et d'une certaine époque.
1er octobre 1957.
Projet de la loi cadre et chute du gouvernement. La crise souligne la difficulté de résoudre politiquement le problème algérien. M. René Coty, qui a refusé provisoirement la démission de M. Bourgès-Mounouri, comme il l'avait fait en mai dernier pour M. Guy Mollet, a commencé ses consultations. Jacques Fesch, qui avait été condamné à mort le 6 avril dernier par la cour d'assises de la Seine pour avoir tué au cours d'une poursuite le gardien de la paix Georges Vergne, a été guillotiné ce matin à la prison de la Santé, son recours en grâce ayant été refusé.
Voilà, 3 ans et 7 mois se sont écoulés entre les deux faits qu'on vient de vous rappeler. Entre l'attaque à main armée, la mort de l'agent de police Georges Vergne et l'exécution capitale de l'auteur du meurtre, Jacques Fesch. Pendant sa détention, celui-ci a écrit de nombreuses lettres. Certaines ont été regroupées par le père Lemonnier et publiées sous le titre « Lumière sur l'échafaud ». D'autres sont inédites. Il les adressait à sa belle-mère et à un ami d'enfance religieux. Celles que nous avons sélectionnées et qui vous seront lues par Pierre Vanneck peuvent permettre de saisir l'évolution d'un homme comme Jacques Fesch pendant son incarcération. En contrepoint de ces lettres, vous entendrez des témoignages de Frédéric Potcher, qui a suivi en particulier le procès du condamné, puis ceux de Mademoiselle Anstett, assistante sociale à la prison de la Santé, du père de Voyaude, alors aumônier de la prison, qui ont suivi Jacques Fesch durant son ascension vers l'échafaud, comme on le dira tout à l'heure. Et enfin, M. Bonaldi, représentant syndical du personnel pénitentiaire. Pour ouvrir ce dossier, une lettre de Jacques Fesch s'expliquant lui-même sur le fait qu'il a mené jusque-là.
Pour moi, chaque fois que je me remémore mon affaire,
non seulement les actes, mais encore tout ce qui les a précédés, des pensées, des intentions, des états d'esprit absolument impossibles à décrire parce que trop complexes, envahissent mon esprit et créent une certaine ambiance que nul ne pourrait comprendre. Il est très difficile d'expliquer ces sortes de pensées parce que, bien qu'on les ressente intimement, on ne sait comment les expliquer. Et puis aussi, parce qu'on a peur de voir sourire ironiquement l'auditeur ou le lecteur et qu'on devine chez lui des réflexions sarcastiques, de la littérature. Quoi qu'on en pense, c'est n'écrivant pas ces lignes pour des juges inflexibles, mais pour des amis compatissants et pleins de bonne volonté. Je dirais franchement tout ce que j'ai pu ressentir durant ces moments qui ont décidé de mon sort. Et si ce que j'écris n'est qu'un fatras d'ineptie d'une imagination déréglée, j'aurais quand même le mérite de la franchise.
Fesch a commencé par matraquer un changeur, et puis l'ami avec lequel il se trouvait est allé chercher un agent de police parce qu'il a eu peur. L'agent de police est arrivé, Fesch s'est sauvé. Il a fait le tour par la rue Saint-Marc, la rue Feydeau, il est remonté sur le boulevard des Italiens, et là, il est entré dans un immeuble. Il a essayé de filer par les toits, il a trouvé un petit escalier de service, il a grimpé cet escalier de service, il est arrivé au sommet de l'immeuble, sur le toit, et là, il a cherché une issue. Il n'en a pas trouvé. Il n'en a pas trouvé parce qu'il n'y en avait pas. Et en effet, Fesch est redescendu. Il est arrivé dans cette petite cour par la porte de l'escalier de service qu'il avait emprunté pour monter. Il arrive dans cette petite cour, il voit l'agent de police, il voit le concierge, il voit la femme du concierge. On ne sait pas ce qu'il a pensé parce qu'il ne l'a pas dit. Le policier, malheureusement, n'a rien dit non plus. Bref, il n'y a pas eu un mot, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il y a eu une très légère hésitation de Fesch. Et puis tout d'un coup, il s'est décidé. Il a traversé la cour, il est passé sous la voûte d'entrée de l'immeuble, il est arrivé à la poignée de la porte d'entrée, la grande porte à deux battants. Là, il a été sur le point d'ouvrir la porte, et au moment où il mettait la main sur la poignée, l'agent de police Vergne, là tout à coup, brandi son pistolet et a crié à Fesch « Oh les mains où je tire !» En réalité, ne vous faites pas d'illusions, Fesch se trouvait à 5 ou 6 mètres de l'agent de police, pas plus. Et Fesch a tiré. Mais il a tiré à travers son imperméable. Il n'a pas visé. Il a tiré au jugé. Et le hasard, un hasard horrible et très malheureux, a fait que l'agent de police Vergne a été tué d'une balle au cœur, d'un seul coup, d'un seul.
On m'a souvent dit, vous aviez tout pour être heureux. On ne comprend pas comment un garçon comme vous, d'aussi bonne famille, et puis en arrivé là, suit une série de réflexions plus ou moins désobligeantes à mon égard, où ressortent les paresseux, insatiables, veut toujours plus. Que ces explications sont fausses. Comme si la résolution de commettre un acte criminel n'avait pas de racines plus profondes. Comment suis-je arrivé là ? J'ai le sentiment de n'avoir jamais été libre, réellement libre de choisir une voie ou l'autre. Ma nature était faible, j'étais sans caractère, lymphatique. Me laissant séduire par la facilité et ayant des besoins qu'avait créé une vie qui, sans être luxueuse, était suffisamment douce pour que je ne prenne pas contact avec la réalité plus dure qui est le lot de beaucoup. Mais ce qui m'a surtout, je crois, enchaîné à une certaine façon de voir les choses, c'est l'éducation que j'ai reçue.
Père de Voyot.
C'était pas le truand vulgaire, n'est-ce pas ? Il était poli. Alors, forcément, n'est-ce pas, vous avez un surveillant qui s'attend toujours à une réponse plus ou moins bizarre d'un détenu, de voir quelqu'un qui lui parle poliment, qui accepte, qui dit merci, ça met tout de même un peu plus de détente. Alors, on lui parle sur un autre ton. Voyez-vous, c'est la grosse différence.
Il restait un garçon de bonne famille.
Ah oui, il a toujours eu le respect, la politesse, il n'y a pas de doute. On sentait une éducation profonde chez lui, n'est-ce pas ? C'est certain.
Je ne crois pas faire preuve d'indiscrétion en dévoilant ce qui a été crié sur les toits, à savoir que mes parents ne s'entendaient pas. Il en résultait une ambiance familiale abominable, faite de hurlements dans les moments cruciaux, et de gêne et de raideur après les crises. Pas de respect, pas d'amour. Mon père, qui était un homme charmant à sa façon pour les étrangers, avait en fait un esprit sarcastique, orgueilleux et cynique. Athée au possible, il ressentait un dégoût de la vie qui, malgré toute sa réussite professionnelle, ne lui avait apporté que déception et désillusion. Depuis mon plus jeune âge, je me suis nourri de ses maximes et ne pouvais évidemment pas faire autrement. Cherchant des exemples autour de moi, j'ai calqué ma conduite sur celle de la personne ayant le plus de caractère, d'où, en résumé, cynisme, amoralité, mépris de l'humanité, joint à une nature bien préparée pour ce genre de caractère et habituée à certains besoins qu'avait créé le milieu dans lequel je vivais. Je savais depuis longtemps que je finirais mal. Je pressentais très clairement que le jour où il me serait donné d'être livré à moi-même, je serais incapable de réagir avec droiture. J'étais inquiet, déséquilibré et fortement malheureux. Je me suis marié parce qu'en premier lieu ma femme était enceinte et puis aussi parce que j'ai trouvé dans ma nouvelle famille une apparence de chaleur. J'ai essayé de travailler un mois. Au premier échec, j'ai tout abandonné. Et ça a été ensuite l'enchaînement de ce que j'appellerais une incurable fatalité qui, loin d'être aveugle, savait très bien où elle me conduisait. Les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants sont gâtées. J'aurais peut-être pu entendre à ce moment-là « Prends ta croix, Jacques. Prends-la en assumant tes responsabilités et tes devoirs. » Et comment aurais-je pu entendre une voix qui ne parle que dans les murmures de la source et non dans le fracas du tonnerre d'une vie déréglée ?
Le mobile, si vous voulez, c'était le rêve de Fesch. Car Fesch rêvait de s'enfuir. Fesch voulait quitter le monde misérable dans lequel il vivait, à Saint-Germain-en-Laye, avec sa mère, quelquefois son père, et puis quelques amis qu'il avait, des garçons comme lui, qui étaient dans cette espèce de période romantique qui a affecté toute la jeunesse française au lendemain de la guerre. Et naturellement, Fesch rêvait de partir, de voir d'autres horizons, de traverser l'océan, et il le croyait tellement, il l'avait tellement dit qu'il voulait s'en aller, qu'il avait fini par faire croire à ses amis qu'il aurait un bateau et qu'avec ce bateau, eh ben, on s'en irait vers les mers du Sud.
Ce n'est pas ce jour-là que je suis devenu criminel. C'est bien avant. Je n'ai fait que mettre en pratique ce qui demeurait en moi à l'état latent et parce que l'occasion s'en présentait. Non pas que le vol me plût, mais j'avais réellement besoin d'avoir un but autre que celui qui se résumait par des ambitions de végétal. Rien aurait pu me sauver. Mais, me dira-t-on aussi, puisque vous acceptez le vol aussi facilement, pourquoi pas le meurtre ? Eh oui, pour être logique avec moi-même, j'aurais dû tout accepter. Au moins le principe du crime. 60 kilos d'hommes n'ont pas plus d'importance que 60 kilos de bœuf. Je sors de la boutique, un passant me voit et crie. Je cours, passe devant ma voiture que je ne songe pas à prendre. Je fuis, on me traque, on me frappe, on crie. Et un seul leitmotiv martèle ce qui me reste d'esprit. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? Et puis, ce sont les coups de feu échangés de part et d'autre, le meurtre. Et l'arrestation d'une bête sauvage qui agit avec les réflexes qui lui ont été légués par ses ancêtres. Et qui remonte en ces moments de danger. Et après, eh bien, c'est la prison.
Monsieur Bonaldi.
En ce qui concerne les régimes de détention des prévenus, la phase essentielle, pendant toute la période d'instruction, dépend très exactement du juge d'instruction. Pour ce qui concerne Jacques Fesch, il a subi une période, vraisemblablement, d'isolement assez longue pendant le cours de l'instruction. Et puis, ensuite, au moment du procès, Et à l'issue de sa condamnation, il a été évidemment placé dans une situation de condamné à mort. Et dans ces conditions, le régime qu'il a subi est un régime particulier et spécial pour ce qui concerne les condamnés à mort. C'est ainsi notamment qu'à l'époque, ce régime comportait les entraves et les menottes pratiquement pendant toute la journée, la surveillance était aussi permanente, que d'autre part, les conditions dans lesquelles il était visité même étaient des conditions beaucoup plus d'ailleurs sévères qu'elles n'existent aujourd'hui pour ce qui concerne les condamnés à mort.
Lundi 30 mars 1954. J'ai vu aujourd'hui Pierrette et mon père. Est-ce que ça peut être triste de se regarder derrière un double grillage? C'est tout juste si on se voit. Et c'est tellement court. Je commence un peu à réaliser toute l'horreur de cette condition et l'avenir est tellement sombre. Ne m'en veux pas si j'ai mis du temps à te répondre, mais il y a des jours où je reste prostré dans un coin sans bouger, à réfléchir. Tout le monde est bien gentil avec moi. Et c'est une grande consolation.
Il était à la deuxième division, dans une cellule qui était comme celle de tous les autres. Ce qui a de particulier pour lui, c'était une avalanche, on peut dire une avalanche, de billets envoyés par des co-détenus, enfin, des qu'il y avait. Prends un tel comme avocat, il en a eu, je ne sais pas, peut-être une trentaine. Il ne parlait que par monosyllabes, il était très, très fortement choqué. Quand il a repris un peu d'assurance, je me suis trouvé en face d'un jeune homme qui avait ses lettres, qui était de bonne famille, bien éduqué, ça sans aucun doute. Au point de vue religieux, il l'a laissé de côté. Bon, la question, pour moi, n'est-ce pas, ne m'intéresse pas tellement, parce que souvent ils prennent le point de vue religieux pour savoir ce qui peut se passer, ce qui ont quelques bénéfices. Mais la grosse chose, c'est de savoir comment était l'individu et ce qu'on pouvait lui faire comme bien. C'est donc que je suis allé le voir très fréquemment, lui apportant, à ce moment-là j'avais une petite bibliothèque, il m'était permis de distribuer quelques livres à des détenus qui avaient besoin de lecture pour s'échapper un peu de leur affaire personnelle qui leur tenait trop à cœur. Alors je lui distribuais quelques livres, de temps en temps, tous les 8 jours je passais, puis en passant dans la division, je lui disais bonjour en passant. Il n'y a pas eu de démonstration extraordinaire.
Tu me demandes des détails sur la vie en prison. C'est très simple, petit frère. Nous restons toujours seuls dans notre cellule, sauf une demi-heure de promenade par jour, également seul. Une demi-heure de parloir par semaine, un colis par mois, et c'est tout. Lever 7 heures, extinction des feux 7 heures. Les occupations se bornent à la lecture, 3 livres par semaine ou plus, si on peut s'en faire envoyer, et au courrier. Les premiers temps, c'était très dur, et puis on s'y habitue petit à petit. Évidemment, la santé se ressent d'un pareil régime, faiblesse généralisée et anémie. Le cœur se retrécit. Et de temps à autre, on souffre un peu d'angoisse. C'est au fond ce qu'il y a de plus pénible, ce manque d'espace vital.
Oui, je pense que les épreuves qu'a subies, je parle des épreuves judiciaires ou pénitentiaires, que pouvait subir un homme comme Jacques Fesch, sont sans commune mesure, vraisemblablement, par rapport à ça, même son éducation, même s'il a été dépravé pendant un certain temps. Il ne s'agissait pas d'un professionnel, de la truanderie. C'est pas, les épreuves qu'il a donc subies, vraisemblablement, ont provoqué chez lui un choc probablement plus important qu'aurait pu subir un professionnel de la mitraillette ou du couteau, n'est-ce pas? Et par conséquent, la révélation pour un homme de cette trempe qui retrouve, même en prison, ce que représente en fait la vraie vie, ou la qualité de la vie, n'est-ce pas, la qualité de la vie au sens où nous l'entendons les uns et les autres, et que cette qualité-là va se trouver gauchie, va se trouver pendant la période de prison, n'est-ce pas, qu'il aura vraisemblablement à subir, même sans penser à la mort, c'est un choc considérable, qui est incomparable avec celui qui délibérément fait de la truanderie, de la délinquance ou du crime son métier, avec un relatif calcul du risque, n'est-ce pas? C'est tout à fait différent.
Que d'heures à passer assis dans un coin sans autre chose à faire qu'à regarder les murs. On finit par devenir complètement déséquilibré. Et inévitablement, ce déséquilibre est destructeur. Il y a une espèce de réflexe d'autodéfense qui amène l'esprit à envisager la riposte dans des voies qui n'ont rien d'évangélique. Nul n'y échappe. Et même si ce sentiment est passager, je crois qu'il a quand même le temps d'imprégner l'âme d'une façon indélébile. C'est la riposte de la bête. Il faut être ici pour comprendre à quel point l'incarcération peut être néfaste à l'individu. Ils arrivent à obtenir une soumission de façade, mais l'intérieur se gangrène de façon effroyable. Des fauves qui guettent le faux pas du dompteur pour lui sauter dessus.
Effectivement, il y a de la part de ce détenu le sentiment, j'en suis persuadé, d'être réduit dans un état, non pas de bête, peut-être que Jacques Fesch a utilisé un mot assez fort, mais en tout cas où l'on se substitue totalement aux besoins de l'homme. Nous le nourrissons, nous le gardons, nous l'hébergeons, nous le surveillons. Et dans cette position-là, il est difficile en effet d'avoir des relations autres que celles administratives, autres que celles peut-être de la méfiance. Et le vécu du détenu par rapport à cette situation donnée est un vécu peut-être de bête par rapport au monde extérieur, même si c'est le monde des prisons.
24 août 1954. J'ai bien reçu hier tes deux bonnes longues lettres. Et je suis heureux, moi aussi, de pouvoir bavarder un peu avec toi. Mon avocat revient demain de vacances et viendra probablement me voir samedi ou dimanche. Je lui demanderai, bien entendu, qu'il demande au juge ton autorisation de visite. Tu la recevras, je pense, par son intermédiaire. C'est un homme admirable, qui a beaucoup d'influence, et qui, je crois, a bien compris toute l'affaire en la plaçant sur le plan qui lui convient. J'ai toute confiance en lui. En outre, il est excessivement religieux, même peut-être un peu trop. Si je l'ai bien compris, dans son idée, l'idée de délit fait corps avec l'idée de péché, et bien sûr, l'idée de pénitence fait également corps avec l'idée de condamnation. Étant donné que mon délit est très conséquent, je me demande quelquefois s'il ne pense pas intérieurement qu'une grosse condamnation me purifierait davantage. Je crois quand même pour ma part qu'il y a d'autres moyens de se purifier. Il veut avant tout mon rachat moral, ce qui est bien sûr le principal. Et pour combattre mon lymphatisme et fatalisme, il m'aiguillonne sur la souffrance. Par exemple, entre lui et moi, le châtiment qui m'attend est sans hésitation la peine capitale. Je sais bien qu'il n'en pense pas un mot, et moi non plus. Heureusement. Sans cela, vivre des mois avec une menace pareille suspendue sur votre tête, il y aurait de quoi se pendre tout de suite. Remarque que c'est évidemment la meilleure façon de ne pas être déçu lors du verdict. Mais c'est aussi la meilleure façon de devenir un vieillard avant l'âge. L'aumônier, lui aussi, est admirable, comme tous les gens simples et bons. Il a quelque chose de lumineux sur son visage. Son sourire attendrirait une pierre. Il a bien sûr une grosse expérience des détenus. Il comprend leur peine et sait toucher leurs âmes en s'occupant de leur corps. Enfin, tu vois, je suis bien entouré. Je n'ai plus qu'à me confier à eux et à attendre le grand jour qui me donnera probablement un avant-goût du jugement dernier et des peines de l'enfer. Voilà bientôt un an que le Seigneur m'a appelé par sa miséricorde. Te dire la date exacte de ma conversion, je ne le puis, elle s'est faite progressivement, avec bien sûr un passage de l'athéisme à la foi sincère plus marqué. Mais lorsque je regarde en arrière, je ne peux repérer que des jalons sur la route. Je n'avais qu'indifférence, mais un jour je me suis aperçu que j'avais de nouveaux yeux, et un spectacle que je n'attendais guère s'est imposé à moi. Jadis, le vrai Dieu était pour moi une tradition sans importance. Et voici qu'il est maintenant le seul qui compte. Il est au centre du monde. Il surplombe mon être, il m'envahit tout entier, et ma pensée ne peut plus éviter sa rencontre. Une main puissante m'a retourné. Où est-elle? Que m'a-t-elle fait? Je ne sais. Car son action n'est pas comme celle des hommes. Elle est insaisissable. Et elle est efficace. Elle me contraint et je suis libre. Elle transforme mon être et je n'ai pourtant pas cessé de devenir ce que je suis. Puis la lutte est venue silencieusement tragique entre ce que je fus et ce que je suis devenu. Car la créature nouvelle qui a été greffée en moi implore de moi une réponse à laquelle je reste libre de me refuser. J'ai reçu le principe, il me faut passer aux conséquences. Mon regard a changé, mais mes habitudes de pensée et de conduite n'ont pas changé. Dieu les a laissées là où elles étaient. Il me faut abattre, adapter, reconstruire les installations intérieures. Et je ne puis être en paix que si j'accepte cette guerre. Je suis moi-même émerveillé et étonné du changement que la grâce a opéré en moi. Comme le dit Claudel, l'état d'un homme qu'on arracherait d'un seul coup de sa peau pour le planter dans un corps étranger au milieu d'un monde inconnu est la seule comparaison que je puisse trouver pour exprimer cet état de désarroi complet. J'ai trouvé la paix, mais en même temps la lutte. Lutte perpétuelle qui me fait progresser. Et plus je progresse, plus je m'aperçois de ma misère et du chemin infini qu'il me reste à parcourir. Si je reste stationnaire, je redescends. Dans cette expérience principale qui vient de bouleverser et marquer ma vie, je découvre pour finir une exigence permanente de réforme spirituelle. La conversion engendre un esprit, et cet esprit m'apprend que la religion n'est pas le confort, mais qu'elle sera toujours, en un sens, une conversion. Mais Dieu est là. En lui, j'ai la force d'apercevoir et d'accomplir ce que je dois être à son image. Il associe ma prière à sa volonté. La vocation qu'il me donne suscite une invocation que je lui adresse.
À propos de cette conversion de Fesch, je prends le départ, j'avais vu Madame Fesch, je la connaissais, elle venait souvent me voir et elle ne pouvait pas accepter, pas plus que son mari du reste, que son fils fût un criminel. Or, elle a été minée petit à petit, une sorte de virus qui s'est emparé d'elle, et peu après la condamnation à mort de Jacques, elle était venue me trouver pour me dire, écoutez, je ne vivrai pas longtemps, je ne peux pas supporter cette affaire-là, je sais que je vais mourir, mais j'offre ma vie pour que mon fils meure bien. C'est là où vient la conversion de Fesch. Elle a pu être préparée par ce qu'on peut dire, ce que l'avocat dit, ce que je peux dire, etc. Mais nous ne pouvons pas faire une conversion d'une volonté, c'est trop profond. Nous pouvons préparer quelque chose. Et j'avais rencontré le sous-directeur, je me rappelle, oh c'était M. Dusson, je crois, oui, qui me dit, un jour, écoutez, vous connaissez Fesch? Je lui dis, oui, bien sûr que je le connais. Ah ben, sa mère vient de mourir, je viens de recevoir le télégramme, je vais le lui porter. Je lui dis, écoutez, allez-y, et puis je vous suivrai, je verrai comment il prendra la chose. Bon, je vois M. Dusson, le directeur de l'époque, entrer, puis ressortir presque immédiatement. Bon, j'arrive dans la cellule, Fesch était assis par terre, comme il avait l'habitude en hiver, contre son tuyau de chauffage qui est en bas, avec sur les épaules une couverture, en train de lire tranquillement un livre de lecture banal. Je lui dis, Jacques, tu as reçu une bien mauvaise nouvelle. Elle dit, ah oui, oh ben vous savez, monsieur le Monnier, il fallait s'y attendre. Oh tenez, j'ai un livre à vous rendre. Puis il va chercher un bouquin, n'est-ce pas, ça a été tout. Pas une larme, rien du tout. Mais plusieurs jours après, il m'a demandé de venir à la messe, chose qu'il ne m'avait jamais demandé avant. À ce moment-là, alors petit à petit, une sorte d'évolution s'est faite, qui était lente, c'est possible, mais le gros point était mis.
Dans 4 jours, c'est Noël. J'espère quand même bien que ce sera le dernier Noël que je passerai ici. Maître Baudet voudrait me refaire faire cassation, afin que l'audience ne puisse avoir lieu que d'ici 18 mois. Seulement sur conseil de la famille, et à ma grande satisfaction, nous arrêterons les frais. Je préfère vider l'abcès plutôt que de traîner ici pour un résultat plus qu'aléatoire. D'autant plus que la famille commence à se désintéresser de la question. Et d'ici que je me trouve seul, il n'y a pas loin. La date du procès est fixée au 3 avril. Et le verdict ne sera probablement pas rendu avant le 5 ou le 6. Tiens, jour de mon anniversaire. 3 ou 4 jours bien pénibles. Maître Baudet n'est pas très rassuré. L'ambiance actuelle n'est pas bien fameuse du fait de pénibles histoires récentes et il craint un peu qu'on exige un exemple. Pour ma part, je n'y pense pas. Tous ces procès sont toujours des pièces de théâtre avec beaucoup de publicité et dont le dénouement est bien souvent curieux. Je suis quand même heureux de passer pour être débarrassé de cette sinécure. Que la volonté du Seigneur soit faite. Pour ma part, sans perdre de vue la gravité de mon cas, il y avait une telle incohérence dans tous mes actes que j'espérais qu'elle ressortirait naturellement. Acceptais-je d'être jugé? Franchement, non. Je me sentais là. Je savais qu'avant tout, il fallait payer ce meurtre involontaire au prix d'un crime impardonnable, afin que l'exemple soit donné. L'exemple. Quelle monstruosité. Comme si un homme devait payer pour de futurs crimes hypothétiques. Et puis on passe par différents états d'esprit, de soumission, de révolte, jusqu'au grand jour. Qu'on le veuille ou non, 3 ans de cellule détruisent pas mal de vitalité et d'illusion. On se sent là, avec une tendance à la fatalité, et un peu excédé par ce réchauffé qui vient en surface 3 ans après. C'est de l'ergotage. Pourquoi, à telle date, à telle heure, avez-vous été là et pourquoi? Oh, puis zut. Je sais que je n'aurais pas dû y aller, mais voilà, j'y étais. Alors qu'on me coupe la tête si on veut, mais qu'on ne m'énerve plus avec cette histoire. Il y a un peu de ça, toi, un peu d'angoisse aussi. On se demande quelle attitude on va avoir. C'est tellement important. Trop de larmes, un lâche, pas assez, un cynique. Il va falloir aussi bien faire attention à ce qu'on va dire. Et ils sont forts et nombreux. Et comme c'est facile. On reste impressionné et ému. En laissant prêt à se précipiter sur le moindre mot, à double sens. Je me suis senti ému le premier jour, après, non. Dois-je le dire, c'est peut-être l'orgueil, mais je ressentais un peu de mépris pour ces hommes qui jouent sans aucun risque la vie de l'un des leurs et qui mentent sciemment pour obtenir ce que leur orgueil professionnel ou leur intérêt exige d'eux, comme si la vérité n'était pas déjà suffisamment tragique. Puis, c'est le curriculum vitae, on appuie sur tout ce qui est nuisible à l'inculpé et on néglige le reste. Ensuite, c'est le défilé des témoins. Hommes honnêtes, j'en suis convaincu, qui racontent ce qu'ils ont vu ou cru voir. Les dépositions se contredisent, mais le fond reste le même en principe. Le président reste paternel, mais inconsciemment ou non, a tendance à favoriser l'accusation. Et on arrive, 2 jours après, aux plaidoiries des avocats qui vont essayer de faire prévaloir leur point de vue. Ils font leur métier, dira-t-on. Certains, oui, avec honneur. D'autres avec acharnement. On plaide à qui a le plus de chances d'amener la condamnation capitale de l'intéressé. Et on ignore si ce qu'on avance est vrai ou faux. À ce moment-là, j'ai eu la nette impression du côté spectacle tout fait d'avance du procès. Le dernier effort de la meute avant la Lali. 4 avocats se succédant pendant des heures et martelant l'esprit des jurés avec des mots « tueur, tueur, tueur ». Le premier est dur, mais sans insister, la conviction n'y étant pas. Le second s'intéresse beaucoup à faire valoir les dommages subis par la victime et à en tirer les conclusions qui s'imposent. Quant au troisième, une lumière du barreau, c'est le déchaînement méthodique et destructeur pendant 2 heures. Ces faits qui ont duré 2 ou 3 minutes, on va les disséquer, les analyser, les commenter pendant 4 jours.
Alors l'avocat général avait une position très simple, une position banale, si j'ose dire, c'est très souvent la position des magistrats, la position qui consiste à dire, moi, vous comprenez, vos cas de conscience, votre rêve, tout ça, c'est très joli, je suis d'accord, je veux bien, mais moi, je suis là pour défendre une société, et puis je vous ferai remarquer que tout de même, Fesch a tué un homme qui avait 3 enfants. Alors tout de même, ça aussi, ça compte. Telle a été la position de l'avocat général. La position de Baudet, qui a fait une plaidoirie absolument extraordinaire, c'est une des plus belles plaidoiries qu'on ait entendues depuis la fin de la guerre, je crois, depuis 1945. La plaidoirie de Baudet a développé une certaine idée, qui est celle-ci. D'un côté, vous avez un homme qui tue, Un garçon qui tue dans l'affolement, dans la folie, qui tue sans réfléchir, qui tue parce qu'il n'a pas pu se retenir, qu'il a été poussé par sa propre nature et qu'il y a eu un enchevêtrement de faits et de circonstances qui ont naturellement porté ce garçon à tirer sur un agent de police. Mais il ne l'a pas visé. Il n'a pas voulu le tuer. Alors vous avez ça d'un côté. Et de l'autre, vous avez quoi? Vous avez l'appareil judiciaire. Vous avez l'appareil judiciaire qui va aboutir à conduire ce garçon à la guillotine. Et là, alors là, ce sera un crime prémédité, réfléchi, froid. Et c'est ce que Baudet a essayé d'expliquer. Il l'a fort bien expliqué, comme toujours.
Et maintenant que je me retrouve ici, 2 mois après, que j'ai eu le temps d'apprécier ma situation et de mieux m'en pénétrer, on me demande ce que je pense de ce jugement. J'interrogeais ma conscience. Que penses-tu? Que ressens-tu? Quels sentiments t'envahissent? Coupable, oui. J'ai commis cette agression, poussée peut-être par le caractère qu'on m'avait formé, mais je ne l'ai pas voulu. Je n'ai pas cherché à fuir mes responsabilités et ai toujours accepté de payer ce que mes crimes méritaient.
Pendant tout le procès, il n'a pas cherché, comment dirais-je, il n'a pas cherché à se défendre par les moyens ordinaires. Vous comprenez? Je crois que pendant le procès, il ne faut pas oublier qu'il était enfermé depuis 3 ans et qu'un homme qui sort d'une cellule au bout de 3 ans, il est un peu ahuri, vous vous rendez compte? Quand il sort de sa solitude et que cette solitude débouche sur le décor de la cour d'assises, de la scène qui est particulièrement imposante, où il y a ces magistrats en rouge, où il y a cette foule, car il y avait un monde fou pour assister à ce procès, où il y avait cette foule même un peu déplaisante, mais très élégante, très huppée, si j'ose dire, cette foule de robes noires, des avocats qui venaient voir, qui venaient assister à ce procès. Alors il faut se mettre dans la peau de ce garçon. Il a le souffle coupé lorsqu'il arrive dans le box de la cour d'assises. Eh bien, il s'est rattrapé assez vite. Il a retrouvé une certaine dignité, je ne dirais pas sérénité. Sérénité, ce serait faux. Il y a beaucoup de journalistes comme moi, des gens qui ont l'habitude, si vous voulez, qui ont tout de suite senti que Fesch n'était pas un assassin comme on en voit beaucoup. C'était un garçon à part. Et nous avons parfaitement senti qu'il ne cachait rien. Ça, c'est très important. Un homme qui ne cache rien dans un box de cour d'assises, croyez-moi, c'est très rare. Eh bien, lui, il ne cache rien du tout. Il ne cachait rien du tout, il avait une retenue et on s'est demandé ce qu'il y avait en lui. Eh bien, ce qu'il y avait en lui, moi je vais vous le dire, c'est ce que son avocat y avait mis. C'est-à-dire une certaine sainteté. Je le dis.
Mercredi 10 avril 57. Mon avocat que tu as dû entendre a été admirable d'un bout à l'autre du procès. Et si dévoué. Il est bien sûr assez affecté et sensible et consciencieux comme il l'est. Je suis sûr qu'il doit se faire des reproches à l'infini. Il est venu me voir dimanche, souriant en apparence, mais assez tendu intérieurement. Il a eu déjà un condamné d'exécuter il y a très longtemps. Et son image le poursuit encore. Avec un deuxième, il ne s'en relèverait pas. Enfin voilà. Tout est consommé. Je n'ai plus qu'à attendre avec résignation ce que la Providence décidera.
Baudet vivait dans un petit appartement au-dessus de la gare Saint-Lazare, près du pont de l'Europe. Un petit appartement de 3 pièces sombres, où il vous recevait, d'une manière très, très feutrée, très froide en même temps. C'était un homme sec, ascétique, qui menait une vie d'une rigueur, de mœurs extraordinaire. Baudet avait horreur de la publicité. Il ne recherchait pas le contact des journalistes. Au contraire, Baudet était un homme renfermé sur lui-même et qui ne défendait que des causes très souvent désespérées. Il s'est intéressé à Fesch et il a donné à Fesch cette espèce de pudeur, de réflexion sur soi-même, cette espèce de sainteté vraiment que Fesch a eue jusqu'au dernier jour.
Baudet m'a apporté quelques informations sur l'opinion du public qui est, paraît-il, très partagée. Il y a quelques bons articles assez sensés sur l'affaire elle-même, la façon dont la justice a été rendue, etc. Je crois que c'est pas trop mauvais. Évidemment, on ne peut prétendre obtenir l'unanimité, ce serait trop beau. De toute façon, je reste en dehors de toutes ces appréciations. Et il y a longtemps que toutes les piques, attaques et autres, rebondissent ou glissent sur la carapace que je me suis peu à peu et naturellement constituée. Pour moi, vois-tu, tout était fait depuis le premier jour et je savais qu'il serait vain d'essayer de participer à ce jugement avec cœur et âme. Certains ont interprété ma froideur apparente comme du courage, d'autres comme du cynisme. Je puis t'avouer que c'était surtout mon sentiment d'impuissance devant ces forces destructives supérieures qui me réduisaient dans une apparence de fatalisme. Et au fond, est-ce que cela ne valait pas mieux que de faire le pantin pour entendre les gens ricaner? Il n'a pas eu peur de tuer un agent et maintenant il tremble pour sa carcasse. Pour le moment, j'ai repris ma petite vie monotone et solitaire entre mes quatre murs. J'ai évidemment changé de cellule et suis en très haute surveillance avec un gardien nuit et jour devant la porte pour réprimer toute velléité de révolte et surtout de suicide. J'ai aussi une veilleuse qui reste éclairée toute la nuit mais qui heureusement ne m'importune pas. J'ai le droit de rester couché autant que je le veux, de lire aussi tard que je le souhaite. Je mange mieux qu'en division, un plat de viande par jour que je mange heureusement de bon appétit. Autrement, je ne puis rien recevoir à part les lettres dont le nombre, départ et arrivée, n'est pas contrôlé. Je m'ennuie bien sûr un peu, surtout que je n'ai pas la tête à lire. Je marche, je grignote, je dors et j'écris. Nous avons le droit à 1 heure de promenade par jour, le matin de 10 à 11, avec les chaînes aux mains. D'ailleurs, dès qu'un de nous sort de la cellule, il faut se balader avec cette ferblanterie qui est heureusement un peu symbolique, mais pas très agréable. On finirait par avoir des complexes de chien de garde. Enfin, vivement que toute cette histoire se termine le plus rapidement possible et qu'on m'oublie un peu. Juin 1957. Il fait encore bien lourd ce matin et je ne sais comment me mettre. Je vais traînasser sur mon lit en attendant la soirée pour recommencer demain le même programme. Hier, je n'ai pas reçu de courrier, mais je me suis dit qu'il devait y avoir un peu de retard. Vers 4 heures, Maître Baudet est venu me voir. Les nouvelles ne sont pas excellentes. D'abord la cassation, pas de résultat avant 10 jours. Mais d'ores et déjà, je sais que la Chambre rendra un arrêt nul. La seule chose qu'ils feront, c'est de casser le franc symbolique accordé au syndicat. Ils estiment, paraît-il, que le syndicat a outrepassé ses droits. Bon, ça n'a pas une grande importance. Mon avocat l'utilisera quand même pour faire admettre que, sans cet organisme, je n'aurais peut-être pas été frappé si durement. Enfin, c'est mieux que rien. En outre, Baudet est allé rendre visite à un fonctionnaire haut placé qui a des fonctions à l'Élysée. Et vois-tu, voilà le danger que l'on ne soupçonne pas. Ces gens-là sont opposés à la grâce, certains tout au moins. Ils estiment qu'il faut avant tout un exemple. Ce n'est pas moi qu'ils visent spécialement, mais c'est moi qu'ils atteignent. À l'heure où de jeunes Français versent leur sang généreux pour la gloire de la France, il serait de mauvais ton d'excuser les crimes de ces misérables criminels.
Eh bien, écoutez, autant que je m'en souvienne, le procès a eu lieu au début du mois d'avril 1957. Oui. C'est au moment où les affaires d'Algérie, la guerre d'Algérie, entraient dans une phase, une de ces phases critiques. Je m'en souviens très bien. Et l'atmosphère était très tendue. À Paris, dans certains milieux, il y avait déjà une pression de certains intellectuels de gauche. Au fond, le cas de Fesch n'intéressait que des gens comme moi, si vous voulez, des habitués de la justice, ou des gens qui ont l'âme sensible. Mais la foule, la rue, s'intéressait pas du tout à l'affaire Fesch.
Et la foule avait des jeunes qui se faisaient tuer en Algérie.
Alors pour eux, c'était plus important que tout le reste, vous comprenez. Et on les comprend, c'est certain. À côté de ces garçons qui étaient appelés en Algérie, il y avait les oisifs comme Fesch. Les bons à rien comme Fesch. On peut pas dire que c'était un blouson doré puisqu'il n'avait pas d'argent. Tout ça aboutit au refus de la grâce, c'est-à-dire que le président Coty, qui avait reçu un certain nombre de lettres lui demandant de gracier Fesch. Il avait reçu une lettre de la presse judiciaire, notamment, qui portait, je crois, une trentaine de signatures, Il avait reçu d'autres lettres lui demandant de faire grâce à Fesch, lui expliquant que le cas Fesch n'était pas un cas ordinaire, lui montrant surtout que Fesch était parfaitement récupérable. Mais il y a eu des pressions qui ont été faites sur le président. C'est pas un secret, tout le monde l'a su. Et ces pressions venaient des services d'ordre, de la police, de la préfecture, qui étaient très inquiètes du moral qui régnait dans les milieux policiers. Vous vous rappelez bien qu'il y a eu, à une certaine époque, une grève de la police. Alors, c'était très inquiétant, tout ça. Mais je pense, que le président Coty a subi l'influence du milieu policier et que, subissant cette influence, il n'a pas estimé normal de gracier Fesch.
La pression qu'on attribue aux organisations de quelque nature qu'elles soient, policières, pénitentiaires, n'est pas suffisante pour forger une opinion, en tout cas de cette nature. Vous admettrez volontiers que le président de la République, tout de même, lorsqu'il prend une mesure de cet ordre, sauf évidemment lorsqu'il s'agit de troubles de type de désordre tel qu'il s'agit de guerre ou d'autre chose, comme on fusille à l'armée les mutins, n'est-ce pas? Sauf que dans ces cas exceptionnels, je ne sache pas que le droit de grâce soit entaché. En tout cas, si cela a été, j'avoue que pour ce qui me concerne personnellement, c'est donné vraiment une valeur extraordinaire à des groupes de pression de ce genre. En tout cas, je n'y crois pas.
En fait, le problème est le suivant. Ma vie est-elle plus utile à la société que ma mort? Tu parles d'un dilemme. C'est réellement pour moi le to be or not to be. Et puis je n'ai aucune envie de servir d'épouvantail qui n'épouvante d'ailleurs personne. Trop de gens qui ne se rendent compte de rien. Ils vivent avec les statistiques et décident du destin des peuples sans se rendre compte de grand-chose. Tu vois, je préfère encore avoir affaire avec le genre d'homme comme le changeur, qui, pour toucher ses dommages et intérêts, n'hésiterait pas à m'envoyer à la guillotine, qui reste intelligent et avec lesquels on peut toujours s'entendre, plutôt qu'avec ces parangons de vertu, qui sont persuadés d'être dans le vrai, et contre lesquels on ne peut rien. Enfin, Baudet a fait son possible, et à défaut d'adhésion, il n'y aura pas trop de voix vengeresse à s'élever. Le mot le plus réconfortant, c'est espoir. Et je ne désespère jamais. Je compte sur moi. Et avec un peu de volonté et de chance, tout est possible. Mais je ne compte pas sur la bonne volonté d'autrui. J'aime mieux m'enfermer dans un petit monde personnel, indépendant et autonome. Que de haine tout autour de moi. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux insupportables que vous-même ne touchez pas du bout des doigts. L'histoire ne varie pas beaucoup, et ceux qu'on appelait autrefois pharisiens s'appellent aujourd'hui juristes et autres. Enfin, c'est lorsqu'on est persécuté qu'on se met à vivre. Et le mépris et la souffrance qu'on endure ici-bas par le fait des hommes se transforment en gloire et en joie dans l'éternité. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant. Depuis 4 mois, je constate que Baudet, sûr de lui au début, commence de plus en plus à se sentir inquiet. J'attends pour ma part le petit événement qui va précipiter les choses. Il y a eu une autre affaire similaire qui sera jugée début octobre. Si mon recours n'est pas encore présenté, ce sera très mauvais. Et la publicité et la presse s'en redonneront à cœur joie. Enfin, attendons.
Il a compté quand même un moment vivre. Il a quand même compté pendant un certain temps, après sa condamnation, même après sa condamnation à mort, il espérait quand même, il faisait des projets.
Mademoiselle Anstett.
Mais au bout de quelque temps, il n'a plus souhaité que mourir. Et quand je lui disais, mais parce qu'il était jeune, parce que... Je lui disais, mais enfin, vous allez peut-être être gracié. Il me dit, ne me parlez pas d'une grâce, parce que je suis maintenant prêt à mourir et je suis incapable de passer 20 ans dans une prison de façon normale. Je me pourrirais et je veux mourir maintenant. Pour lui, il allait au ciel. En somme, il avait une foi extraordinaire. Il était déjà dans l'éternité. Il vivait déjà. Et il m'a même dit, je vous aiderai. Plus tard, je vous aiderai. Il m'a demandé d'être. Il m'a dit, vous serez bonne avec les condamnés à mort. C'est dur. Voyez, et il semblait déjà n'être plus sur terre.
J'ai conscience qu'à l'heure actuelle, il m'est beaucoup donné. Et j'ai le ferme espoir qu'il me sera donné plus encore. Il y a de grands mystères qui nous entourent. Ne luttons pas sous la pression de pensées égoïstes contre la rédemption. Les voies sont nombreuses et variées, mais le but unique. De même qu'une montagne de 9000 mètres de haut peut avoir une base de 30 kilomètres de long, il n'y a qu'un sommet et pourtant des centaines de voies pour l'atteindre. Chacun suit sa route et ne voit que ce qui s'offre à sa vue. Si tu grimpes par la face nord, tu ne peux distinguer la face sud. Mais arrivé en haut, le même panorama s'offre à tout le monde. J'arrive, quant à moi, au pied du sommet dans 60 jours environ. Et mon ascension sera terminée. Les symptômes actuels sont plus que probants. Voyez le figuier et tous les arbres. Lorsque leurs branches commencent à être tendres et qu'il leur pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Fiat et paix à tous. September 13, 1957. Vois-tu, moi je suis en agonie depuis plus d'un mois. Petit à petit je quitte la terre pour me rapprocher du ciel, et je vois chaque chose de plus haut et avec une acuité plus forte. C'est pour ça que je ne puis m'empêcher de crier gare quand je vois les autres faire de la corde raide sur une mer de feu. Enfin, bientôt le voile se déchirera.
Jacques Fesch, c'est la démonstration de la fragilité et de la densité de l'homme. Je crois que, en définitive, pour nous, pour moi, prof professionnel, c'est que à aucun moment il existe un cadre dans lequel tout entre, même s'il s'agit de murs de prison, même s'il s'agit de cellules, chaque homme a sa part. Bien sûr qu'elle est influencée par l'extérieur, bien sûr qu'elle est influencée par l'éducation, par l'aide, par l'assistance, par les conditions même du crime, du délit, peu importe, par la vie antérieure. Mais ce qu'il reste, pour moi en tout cas, de Jacques Fesch, c'est effectivement un cas d'abord, mais c'est la démonstration qu'il faudrait, pour chaque homme qui chute, comme lui, comme d'autres, un cadre adapté, avec la certitude qu'en tout état de cause, nous nous tromperons, que ce ne se sauvera de ce cadre que celui qui, individuellement, personnellement, avec l'aide des uns et des autres, trouvera sa véritable voie. Jacques Fesch l'a-t-il trouvé dans la mort, ou l'aurait-il trouvé ailleurs ?
23 septembre 57. Et voilà. C'est demain que mon sort se joue. Ou plutôt, c'est demain que la décision finale va être prise, et c'est d'ici quelques jours que je vais rejoindre l'éternité bienheureuse où toute crainte est bannie. J'espère que vous commencez tous à ouvrir les yeux et que vous ne refusez plus à admettre l'inévitable, ou autrement vous allez tomber de haut, vous faisant très mal. Ne va surtout pas voir dans ce qui arrive une injustice divine, c'en est une terrestre. Mais à ce point de vue-là, rien n'a beaucoup d'importance. N'oublie pas que ce n'est pas Dieu qui est à ton service, mais toi au sien.
Et c'est la dernière lettre à son avocat, Maître Baudet.
Je ne puis écrire cette lettre sans émotion, à la pensée que lorsque vous la lirez, je serai au ciel. Que ne puis-je par avance vous décrire toutes les merveilles, vous faire goûter toute la douceur de l'amour de Jésus. Hélas, le voile couvre encore mes yeux pour quelques heures, et lorsque je verrai, Je ne pourrai plus partager ma joie avec vous, et il vous faudra continuer votre combat seul dans l'exil et les épreuves amères qui s'abattent à plaisir sur les enfants de Dieu. D'abord, un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce merci s'adresse bien sûr à vos peines d'avocat, à vos soucis professionnels, mais surtout à l'homme de Dieu qui, avec un zèle et une constance rare, n'a pas cessé de diriger et de ramener la brebis récalcitrante vers la bergerie de son père. Votre persévérance et votre foi m'ont toujours étonné, foi féroce même quelquefois. Aussi, puis-je bien l'avouer, vous avais-je surnommé la panthère de Dieu. En tout cas, vous m'avez donné Dieu. Sans vous, incontestablement, je n'aurais jamais pu m'élever au-dessus de mes petits horizons bornés. Sans vous, le torrent de prières qui m'a arraché à moi-même n'aurait jamais coulé avec une telle intensité. Oh, me diriez-vous, modestement, je n'ai été que l'instrument de Dieu, je le sais. Cher maître, en ces derniers moments, je ne puis vous souhaiter rien d'autre que de devenir de plus en plus semblable à Jésus crucifié. Que la paix qui dépasse tout entendement vous inonde, et que le Seigneur vous garde jusqu'au dernier matin où une nouvelle aurore luira aussi et enfin pour vous. À vous revoir en Dieu, je vous embrasse dans le Christ, Jésus et Marie. Votre frère en Dieu, Jacques. L'exécution aura lieu demain vers 4 heures du matin. Que la volonté du Seigneur soit faite en toutes choses. Je suis sûr que dans sa bonté, Jésus me donnera une mort de chrétien, afin que jusqu'au bout je puisse rendre témoignage. Il faut que je glorifie son saint nom, et je sais que je le glorifierai. Je dois me fortifier la volonté, et pour cela, je songe à la procession des décapités qui honorent l'Église. Serais-je plus faible qu'eux, Dieu m'en garde. J'attends dans la nuit et la paix. J'ai les yeux fixés sur le crucifix, et mes regards ne se détachent pas des plaies de mon Sauveur. Je me répète inlassablement, c'est pour toi. Je veux garder cette image jusqu'au bout, moi qui vais si peu souffrir. J'attends l'amour. Dans 5 heures, je verrai Jésus.
C'est un rêve qui se termine dans le sang. Vous voyez, c'est le rêve d'un enfant qui n'a pas grandi et qui meurt après avoir réalisé, enfin, qu'il n'est plus un enfant.
À mon ami Robert, en espérant que lui aussi verra luire l'aurore. Il s'est dit qu'il est bon de partir dans la nuit vers la fin de l'exil, vers l'aurore qui lui, dont l'âme ici-bas est couverte de voile. Puis, il s'en est allé au milieu des sanglots vers le noir chevalet et le sanglant billot, les yeux tout grands ouverts, fixé sur les étoiles.
C'était l'affaire Jacques Fesch par Michel Bichebois, première diffusion sur France Culture le 10 février 1973. Rappelons que Michel Bichebois vient de publier Autoradio, 40 ans de radio et plus avec affinité, édition Faustier. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.